Pas qui me connaît ici. Je suis venu peut-être il y a 3 ans, fait que j'imagine que très peu me connaissent. Je m'appelle Daniel Jonf. Ça se peut-tu que la semaine passée, vous avez eu un Jean Audet qui est venu prêcher dans l'Apocalypse? Alors, Jean Audet, c'est mon beau-père. Et puis, je suis de l'église de Granby, Flambeau Espoir, avec lui là-bas aussi. Puis, ma femme Renalma, c'est sa fille aînée. Puis, ensemble, on a 5 enfants. Puis, on est dans la région de Granby depuis 2011. C'est ça. Fait que là, je suis content de pouvoir venir voir nos voisins à Cowansville. Puis, c'est un honneur de pouvoir partager la parole avec vous. J'espère que le Seigneur va pouvoir vous bénir à travers le fait que c'est un grand prix qu'il a fait de nous, ses serviteurs. Donc, on va pouvoir... être dans la parole ensemble. Donc, j'ai quelques questions pour vous pour commencer. Vous allez voir, je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions, puis sentez-vous pas obligé de me répondre directement, là, parce que vous allez voir, il y en a beaucoup. Alors, c'est juste pour s'aider à réfléchir ensemble. Alors, est-ce que c'est possible de connaître la volonté de Dieu? Hein? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. C'est-tu possible de la connaître, la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu veut qu'on connaisse sa volonté? Et si on connaît la volonté de Dieu, est-ce que ça change nos vies? Ou est-ce que ça ne change pas nos vies de la connaître parce qu'on la connaît, mais ça ne change pas nos vies peut-être? Hein? Et pour connaître la volonté de Dieu, est-ce qu'il faut commencer par connaître Dieu? Est-ce qu'il faut commencer par connaître Dieu pour connaître sa volonté? Alors, on va regarder avec l'expérience de Paul, Paul qui s'est converti, dans le chapitre 26. On va se servir de ce chapitre-là du livre des Actes, juste pour s'introduire. Et ce n'est pas des versets qu'on va lire ensemble, je vais les afficher à l'écran puis je vais en parler. Mais ça va juste nous guider dans l'introduction pour répondre un peu à la question de qu'est-ce que ça change à nos vies de savoir qui est le Seigneur. Alors, si on regarde les versets 15 et 16, aujourd'hui, quand on comprend qui est le Seigneur, ça se passe pour nous un petit peu comme ça s'est passé pour l'apôtre Paul lorsqu'il s'est converti. C'est-à-dire qu'on comprend que Jésus qui nous parle du ciel, il règne, il est installé sur son trône. Et en tant que Seigneur, Seigneur, on n'est pas habitué à cette expression-là au Québec. Hein? Le Seigneur, c'est comme le roi et le maître. Alors, en tant que Seigneur, il fait de nous ses serviteurs et ses témoins. Hein? Du moins, c'est ce qu'on lit qu'il a fait avec Paul, l'apôtre Paul. Alors, on est appelé à faire quoi lorsqu'on est appelé à être ses serviteurs et ses témoins du Seigneur Jésus? On avance au verset 18. On est appelé à faire quelque chose pour ouvrir les yeux des gens. Et on leur ouvre les yeux à quel sujet? Hein, on leur ouvre les yeux sur le fait qu'ils sont dans les ténèbres, mais qu'ils peuvent passer à la lumière. On leur ouvre les yeux sur le fait qu'ils sont sous la puissance de Satan. C'est quelque chose. C'est Jésus qui parle. Et qui dit qu'ils sont sous la puissance de Satan, et qu'on leur ouvre les yeux pour passer sous la puissance de Dieu. L'Évangile, c'est un message tellement puissant. Et comment peut-on passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu? Eh bien, par la foi en Jésus. Et dans les prochaines minutes, on va répondre un peu à comment on peut avoir la foi en Jésus. On ne le voit pas nécessairement tout de suite ici. On va avancer encore dans le verset 18, on souligne d'autres mots. Et qu'est-ce qui arrive aux gens qui ont la foi en Jésus? On le dit, ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Et aussi, ils reçoivent le pardon des péchés qui les gardaient dans les ténèbres et une part d'héritage avec les saints. Et c'est ça la puissance de Dieu, l'héritage avec les saints. Ça, c'est la mission que Jésus, le Seigneur, confie à ses serviteurs. C'est grandiose. C'est vraiment extraordinaire. Et on avance au verset 19. Résistes-tu, toi, à la volonté du Seigneur? Est-ce que ça t'arrive de connaître la volonté du Seigneur et d'y résister? Vous savez, c'est sûr et certain que la réponse, c'est oui. Ça m'arrive de résister à la volonté du Seigneur. Et si c'est le cas, je pense que c'est juste honnête et sage et bon devant Dieu de prendre le temps de le reconnaître. Seigneur, j'ai résisté ou je suis en train de résister à ta volonté dans ma vie. On avance au verset 20. Dans la mission, quand on ne résiste pas à la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on annonce aux gens qu'ils doivent se repentir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le monde? Bien, c'est nécessaire de se repentir et de se tourner vers Dieu. Et pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est nécessaire pour nous de l'annoncer au monde qu'il doit se repentir. Hein? Ça fait partie de la volonté de Dieu pour l'Église. Ce n'est pas quelque chose que le monde aime entendre, de lui dire qu'il doit changer de voie, se tourner vers Dieu. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Lorsque tu t'es repenti, toi, est-ce que tu t'es repenti? Lorsque tu t'es repenti et que tu t'es tourné vers Dieu, as-tu adopté une nouvelle manière de vivre? On peut remercier Dieu pour cette nouvelle manière de vivre que tu as adoptée. Hein? Et comment cette nouvelle manière de vivre confirme-t-elle ton changement d'attitude face à Dieu? Tu peux y réfléchir dans ta tête puis dire, il y a une confirmation, ma vie est tellement différente. Puis tu peux dire, merci Seigneur. On peut dire, merci Seigneur. Alors, on avance au titre reconnaissance. C'est en réfléchissant à cette question-là qu'on ouvre maintenant la lettre de Paul aux Colossiens. Au chapitre 1, à partir des premiers versets. Alors, on va afficher les versets 1 et 2. En leur écrivant cette lettre, Paul était bien conscient qu'il jouait son rôle d'apôtre en respectant la volonté de Dieu. Alors Dieu lui a donné un rôle et il joue ce rôle pour respecter la volonté de Dieu. Dieu nous a donné un rôle à nous aussi. Est-ce qu'on est apôtre? Non, hein? Mais il nous a donné des rôles. Alors, Paul respectait la volonté de Dieu. Après avoir écrit ses salutations, quelle est la première chose qu'il leur écrit? On va afficher les versets 3 à 5 et on va les lire. Alors, je vais lire à partir du verset 3. « Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Quand? « Lorsque nous prions pour vous. » En effet, nous avons été informés de quoi? De votre foi en Jésus-Christ et aussi de l'amour que vous avez pour tous les saints. Pourquoi? À cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Alors, voyez-vous, pour Paul, c'est bien évident que les Colossiens, les croyants, se sont repentis, qu'ils se sont tournés vers Dieu et qu'ils ont adopté une manière de vivre qui confirme leur changement d'attitude face à Dieu. C'est bien évident. Et c'est quoi qui confirme ça? Hein? On pourrait dire que ce qui est le plus évident dans ce verset-là ou dans ce passage-là, c'est l'amour qu'ils ont pour tous les saints. Ça se manifeste en action, au milieu d'eux, entre les saints et les saintes. C'est ça qui confirme clairement leur changement d'attitude. Alors, qu'est-ce qui confirme notre changement d'attitude à nous, à Cowansville ou à Granby, face à Dieu, au Québec? Hein? C'est l'amour que nous avons pour tous les saints qui le confirme, notre changement d'attitude, basé sur notre espérance en ce qui nous est réservé au ciel et notre foi en Jésus. Alors, quand j'ai étudié cette prière, j'ai été surpris. En passant, j'ai souligné d'autres mots. Non, je n'ai pas changé pour la slide. Alors, quand j'ai étudié cette prière, j'ai été surpris. J'ai réalisé que je n'ai pas tendance à prier comme ça, moi, là, pour l'Église. Quand je remercie Dieu pour l'Église. J'ai réalisé comment c'est une prière pratique et inspirante. Comment ce modèle de prière va-t-il changer ma vie de prière? En plus de remercier Dieu parce que vous êtes là dans l'Église, en plus de remercier Dieu parce que vous êtes à l'œuvre et au service de Dieu dans l'Église, en plus de remercier Dieu parce que des fois vous avez des sujets de remerciement que vous partagez, un peu comme on a entendu ce matin, pour remercier Dieu, eh bien, je vais pouvoir remercier Dieu à cause que votre foi est placée en Jésus-Christ et non pas dans ce que le monde veut nous enseigner. Je vais pouvoir remercier Dieu à cause de l'espérance qui vous est réservée, non pas sur la terre, mais dans le ciel. Je vais pouvoir remercier Dieu parce que cette espérance-là vous a inspiré de l'amour pour tous les saints autour de vous et dans le monde. Peut-être la guerre en Ukraine, peut-être avez-vous envoyé de l'argent en tant qu'Église ou même en tant qu'individu dans votre vie personnelle pour prendre soin des frères et des sœurs affligés. Peut-être que vous prenez soin des églises persécutées dans le monde aussi à travers un organisme comme Open Doors, Porte Ouverte, ou ainsi de suite. Donc, vous avez de l'amour dans l'Église et peut-être à l'extérieur de l'Église aussi pour les saints. Et je peux remercier Dieu pour ces trois choses-là. Votre foi bien placée, votre espérance qui regarde au bon endroit et votre amour qui se répand à cause de cette foi et de cette espérance de Jésus en d'autres personnes qui nous élèvent vers le ciel. En le remerciant comme ça, je vais comprendre un petit peu mieux la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Dieu veut nous voir progresser dans une foi placée en Jésus, dans une espérance qui regarde au ciel, dans l'amour envers les saints. Et ce n'est pas tout. Maintenant, on souligne d'autres mots dans les mêmes versets. Cette prière-là nous suggère que notre amour pour tous les saints est causé par quoi? L'espérance, je l'ai entendu, qui nous est réservée au ciel. Autrement dit, cette espérance, elle semble ouvrir nos yeux sur la grandeur de ce que Dieu veut faire dans votre vie et dans la vie des personnes autour de vous. Pour qu'on puisse agir avec un amour céleste envers eux, plutôt que juste un amour terrestre. Hein? Tout le monde peut aimer, mais il y a un amour qui découle de ce que Dieu veut faire, qui est plus grand encore. Alors, comment pouvons-nous connaître l'espérance qui nous est réservée au ciel? On va souligner d'autres mots. L'espérance qui nous est réservée au ciel, c'est quelque chose qui s'explique bien. Comment? Il suffit d'en entendre parler par la parole de la vérité, l'Évangile. L'Évangile nous montre la grandeur de ce qui nous est réservé ensemble au ciel grâce à Jésus-Christ qui nous libère de l'emprise du péché et de la mort. Et ça nous encourage à œuvrer avec amour dans notre sainte famille. Pourquoi est-ce qu'on mentionne que l'espérance nous est réservée au ciel? On en a parlé un peu. Hein? C'est à cause de notre foi en Jésus-Christ. Jésus, c'est le chemin vers le ciel. C'est la vérité qui nous libère de ce qui nous retient d'aller au ciel. Et c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie céleste. C'est Jésus seul qui a quitté le ciel pour descendre sur la terre, œuvrer auprès de nous. Hein, il n'y a personne d'autre que Jésus qui a quitté le ciel pour venir prendre soin de nous sur la terre. Et c'est Jésus seul qui a pris le poids de mes péchés, de nos péchés sur lui et qui est mort pour effacer cette dette-là de nos péchés, nous décharger du fardeau de nos péchés. Et c'est Jésus seul qui, après être mort, n'est pas resté retenu dans la tombe, mais est remonté jusqu'au ciel, ressuscité, pour nous y préparer une place, parce qu'il a tous les pouvoirs en tant que Fils de Dieu. Alors, notre foi en Jésus nous communique l'espérance céleste. Si Jésus n'était pas mort et n'était pas ressuscité, on n'aurait pas d'espoir pour le ciel. Et grâce à cette espérance, on peut vraiment aimer notre nouvelle famille. Si on ne vit pas dans l'amour de notre nouvelle famille, qu'est-ce qui n'est pas en santé dans notre vie? La même réponse que tantôt, l'espérance n'est pas en santé. Si l'amour n'est pas là, ça veut dire qu'on n'espère pas les bonnes choses. Et notre foi se détourne peut-être de Jésus aussi. C'est pour ça que dans une autre lettre, Paul a écrit, et maintenant on affiche dans 1 Corinthiens, « Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » Donc, l'Évangile produit la foi et l'espérance qui produisent ensemble l'amour. Et concernant l'Évangile, ce n'est pas tout ce que Paul dit. On retourne dans la lettre aux Colossiens, on va lire les versets 6 à 8. Alors, il est parvenu jusqu'à vous, cet Évangile, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Épaphras est pour vous un fidèle serviteur de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Alors ici, on parle des fruits et des progrès de l'Évangile dans le monde. Et comment l'Évangile a-t-il porté des fruits et progressé chez les Colossiens? Eh bien, il a produit, comme on l'a lu juste avant, en eux la foi, l'espérance et l'amour. Et la bonne sorte de foi, d'amour et d'espérance. Et comment est-ce que l'Évangile parvient jusqu'à nous? Eh bien, l'Évangile, c'est quelque chose qu'on entend par l'enseignement de nos frères et sœurs chrétiens. Alors, c'est une raison pour laquelle on est tellement précieux les uns pour les autres. Et c'est quelque chose, l'Évangile, qui nous fait connaître la grâce de Dieu dans la vérité, qui nous affranchit du mensonge qui veut masquer et cacher la grâce de Dieu dans le monde. Alors, comment Épaphras a-t-il été maintenant un fidèle serviteur de Christ pour les Colossiens? Eh bien, il leur a tenu compagnie en les servant par son enseignement pour qu'ils puissent connaître vraiment la grâce de Dieu. Alors, on voit un peu différents rôles dans ces versets-là. Et finalement, il y a un rôle qu'il ne faudrait pas qu'on oublie, c'est celui de Dieu. Comment a-t-il aidé les Colossiens? Le Saint-Esprit les a animés d'un amour particulier. Ce n'est pas un petit amour tout faible. Dieu est à l'œuvre à travers le fait qu'on se partage l'Évangile. Et il fait en sorte que cet amour soit plus grand. Maintenant, sur la base des paroles qu'on a devant les yeux, je vais vous inviter à prier. On va prier, je pense, à trois reprises pendant le message. Et moi, je vous invite à garder les yeux ouverts, peut-être, durant les prières, parce que des fois, je vais vraiment m'inspirer du texte qui va être à l'écran pour ces prières-là. Et je vais donc garder moi-même les yeux avec le texte là, pour prier. Alors, notre Père, Seigneur, 2000 ans après l'apôtre Paul, nous pouvons nous aussi à Cowansville te remercier pour tes fidèles serviteurs qui ont fait parvenir l'Évangile jusqu'à nous au Québec et à Cowansville. Nous pouvons te remercier aussi pour la foi en Jésus qu'on observe dans nos frères et nos sœurs ici. Nous pouvons te remercier aussi pour notre espérance qui nous est réservée au ciel et pas juste sur la terre. Nous pouvons te remercier pour l'amour que tu animes au milieu de nous dans l'Église, pour ta grâce et l'amour que tu animes par ton esprit au milieu de nous. Et maintenant, Seigneur, on te prie de nous aider à continuer à progresser dans l'Évangile. Aide-nous à nous concentrer pour la suite du message aussi. Amen. Alors, cette façon de remercier Dieu les uns pour les autres, moi, je trouve que c'est un beau modèle là, de Paul, puis on peut l'intégrer dans notre vie de prière. En fait, il y a plus que ça qu'on peut intégrer dans notre vie de prière et dans notre vie. Non seulement c'est bon de dire qu'on est reconnaissant quand on voit s'accomplir la volonté de Dieu. Comment s'accomplit la volonté de Dieu dans l'Église, hein? Par une foi qui est placée au bon endroit en Jésus, par un espoir qui regarde aux choses célestes et par un amour qui se répand vers les saints. Et ça, c'est la reconnaissance. Mais on peut aussi se tourner vers la connaissance. La lettre aux Colossiens va beaucoup nous parler de connaissance. Et donc, Dieu nous invite à prier non seulement pour notre reconnaissance quand sa volonté s'accomplit, mais pour mieux connaître sa volonté. Pour qu'en connaissant mieux sa volonté, on puisse mieux le connaître lui. En connaissant mieux sa volonté, on va mieux le connaître lui. Je n'ai pas l'air de vous dire les choses à l'envers. Peut-être, hein? Et que ça change quelque chose à nos vies. Alors, on va réfléchir un petit peu à ce que je vous ai dit les choses à l'envers ou pas, en lisant les versets 9 à 11 maintenant. Alors, Paul continue en disant, « Voilà pourquoi, suite au fait que vous avez reçu l'Évangile, nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés de l'Évangile qui a progressé dans vos rangs, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons quoi? Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Et comment? En toute sagesse et intelligence spirituelle. Et pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Alors, vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. » Alors, on a peut-être répondu à la question, mais on va y revenir. Hein? De nous-mêmes, on n'a pas tendance à bien connaître la volonté de Dieu, sinon on n'aurait pas besoin de demander à Dieu de mieux nous remplir de la connaissance de sa volonté. On n'a pas tendance à bien connaître sa volonté. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour bien, pas juste un petit peu, mais bien connaître sa volonté? Osons demander à Dieu d'être rempli de la connaissance de sa volonté. Pas juste avec un peu de sagesse puis un petit peu d'intelligence terrestre, mais d'être rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est oser quelque chose, hein, que de demander ça à Dieu. C'est mettre la barre très haute. J'en revenais pas quand j'ai réalisé ça. Et qu'est-ce que ça va faire de mieux connaître sa volonté? Hein, ça va nous permettre de marcher d'une manière digne du roi Seigneur et de lui plaire entièrement. De connaître sa volonté va nous permettre de lui plaire entièrement. C'est quelque chose. Alors, c'est quoi marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement? Eh bien, ça se résume à laisser le Seigneur être Seigneur de nos vies. On va prendre la place du serviteur et non pas du Seigneur de notre propre vie. On va adapter nos vies pour bien le servir. On va se soucier de ce qu'il pense de chaque chose qu'on décide de faire. On peut-tu afficher maintenant la jeune femme? Je ne sais pas si vous voyez son bracelet. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ce n'est plus à la mode aujourd'hui. Il y a environ 10 ans, là, c'était la mode. Yes, what would Jesus do? C'est ça. Qu'est-ce que Jésus ferait s'il était là à côté de moi dans ma circonstance, dans ma situation? Les gens portaient ça, il y avait des bracelets, il y avait d'autres sortes de choses que tu pouvais porter, des bagues. Puis, pour se rappeler un peu, OK, à tout moment de ma vie, je pourrais réfléchir à qu'est-ce que Jésus me demanderait de faire dans cette circonstance. Ça serait quoi sa volonté quand je suis en train de faire ceci au travail ou cela dans mes loisirs ou dans toutes circonstances? Et c'était comme un rappel, ce bracelet-là. Et c'est passé de mode, mais c'est intéressant. Tu en as encore un, mais il est brisé. Moi aussi, j'en ai un dans un tiroir quelque part. J'aurais dû penser peut-être à le retrouver pour le mettre ce matin. On retourne au verset 9 à 11. En marchant dignement du Seigneur, d'une manière digne du Seigneur, qu'est-ce qui va être visible dans nos vies? Les fruits, hein? Les fruits vont être produits. C'est quoi ces fruits-là? Toutes sortes de bonnes œuvres. Tantôt, on parlait de l'amour pour les saints. Hein? Quand tu aimes ton frère ou ta sœur, tu fais des bonnes œuvres. Alors, c'est ça les fruits de toutes sortes de bonnes œuvres. En marchant d'une manière digne du Seigneur, parce qu'on connaît sa volonté, on va aussi progresser dans la connaissance de Dieu. Autrement dit, on va progresser à le connaître en agissant par amour, avec amour. Et on va être toujours et avec joie persévérant et patient. Mais attendez. On va souligner d'autres mots. Au début, on s'est posé toutes sortes de questions au sujet de connaître la volonté de Dieu. Hein, pour connaître la volonté de Dieu, est-ce qu'il faut commencer par connaître Dieu? Hein, certainement qu'il faut être sauvé, il faut savoir qu'il est le Seigneur, ça c'est sûr et certain. Mais une fois qu'on sait qu'il est le Seigneur, pour connaître la volonté de Dieu, faut-il commencer par connaître Dieu? Eh bien ici, on vient de voir qu'il faut connaître la volonté de Dieu pour lui plaire, et que c'est en plaisant à Dieu qu'on va mieux ensuite le connaître. C'est un cercle vertueux. C'est le contraire d'un cercle vicieux. Hein? C'est un cercle de vie qui tourne dans le bon sens de la vie. Alors, réalisez-vous que dans cette prière, on ne demande pas de connaître Dieu, mais on demande de connaître sa volonté pour lui plaire et que ça nous permette de mieux le connaître lui. Alors oui, on a l'objectif de mieux le connaître, mais on a besoin de connaître sa volonté pour y arriver à mieux le connaître en action. En résultat de nos actions bien placées dans la vie. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut progresser dans la vie? En cherchant d'abord sa volonté. Vous avez peut-être eu un autre verset qui vous est venu en tête, hein? Cherchons d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses viendront ensuite. C'est un autre indice là, des priorités de Dieu pour nous. Hein? C'est en répondant à la volonté de Dieu qu'on progresse dans la vie. Dieu veut nous voir être des gens qui se soucient, qui cherchent à être remplis de la connaissance de sa volonté. On n'a pas besoin d'abandonner puis de dire « ça, c'est un mystère, je ne pourrai jamais le savoir ». On peut lui demander de nous en remplir parce qu'on veut y répondre. Notre place dans la vie, c'est de répondre à l'appel de Dieu d'être sauvé. C'est de répondre à sa volonté. Quelle attitude devons-nous développer? On l'a vu tantôt dans Acte 26, c'est la suivante. Soyons des personnes qui se tournent vers Dieu pour chercher à mieux connaître ce qu'il veut. Et ensuite, agissons d'une manière qui confirme notre attitude favorable à sa volonté. Et là, vous dites, oh là là, j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit, parce que je ne suis pas toujours capable. Amen. On a besoin de Dieu qui nous renforce. Et on l'a vu dans le passage biblique. Alors, on va souligner d'autres mots maintenant. Quand on agit de cette façon, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous fortifie à tout point de vue. Pas juste dans quelques petits points de vue de notre vie, là. À tout point de vue. Par sa puissance faible? Non, hein? Par sa puissance glorieuse. Et il nous fortifie pourquoi? Pour qu'on puisse faire tout ce qu'on veut? Non, pour être toujours et avec joie, persévérant et patient dans le travail qu'il nous confie. Hein? Est-ce que c'est facile de chercher à vivre la volonté de Dieu? Non. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas cesser de chercher à prier les uns pour les autres, pour que Dieu nous fortifie à travers ça. Il nous révèle sa volonté, et quand on accepte de marcher dans sa volonté, il nous fortifie. On prie les uns pour les autres. De cette façon-là, comme Paul le fait pour les Colossiens, et le faisait régulièrement pour l'Église entière. Chercher à vivre la volonté de Dieu, donc, c'est un combat qui se fait en prière. Qui commence par la prière. Et au milieu de ce combat, ce n'est pas tout ça, ce n'est pas juste ça qu'on va prier, là. Il y a d'autres choses. On va avancer dans les versets 12 à 14 maintenant, s'il vous plaît. Donc, en demandant ces choses-là à Dieu, vous exprimerez votre reconnaissance au Père. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Alors, comment ta vie a-t-elle changé lorsque tu as été délivré de la puissance des ténèbres et que Dieu t'a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière? Pour reprendre les mots de Jésus qu'on a vus dans Actes 26 tantôt, ce n'est plus la puissance de Satan et l'attrait du péché qui règne dans nos vies, c'est la puissance de Dieu. Et pour ça, on peut dire merci Seigneur. On va souligner d'autres mots dans le même verset, dans le même passage. Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Cherchons d'abord sa volonté, hein? C'est-à-dire qu'il nous a soumis au règne de son Fils bien-aimé. Et pourquoi est-ce qu'on peut être reconnaissant d'avoir Jésus pour régner sur nous plutôt qu'un autre? Hein? C'est le créateur. Si on continuait à lire la lettre aux Colossiens, on verrait que Jésus, c'est le créateur du monde. Et qu'il nous a réconciliés à un grand prix avec Dieu pour nous donner la paix dont on parlait plus tôt ce matin dans notre culte. Jésus aussi nous a rachetés et pardonnés de nos péchés, et il ne veut pas qu'on vive le malheur là, de retourner aux ténèbres sous la puissance de Satan. Il veut plutôt nous garder dans sa main pour qu'on vive une vie nouvelle en le connaissant et en nous donnant une part d'héritage dans le ciel. Tout ce qu'il nous demande, ce Seigneur Jésus, c'est bon et raisonnable pour nous, contrairement à ce que le monde nous demande. La volonté de Jésus pour nous, elle est parfaite. Il n'y a personne d'autre, aucun roi, aucun premier ministre, qui a une volonté parfaite pour nous. Personne d'autre que Jésus. Alors, pour la deuxième fois, j'aimerais vous inviter à prier. On va vraiment suivre le modèle de ces mots-là pour mettre en pratique cette prière-là. Alors, Seigneur, nous aimerions te demander de nous aider à ne pas arrêter de te prier les uns pour les autres. Et de te demander que nous soyons tous remplis, pas juste un petit peu, mais remplis de la connaissance de ta volonté, d'une sagesse qui est impossible pour nous, hein, en toute sagesse, et d'une intelligence que nous n'avons pas, l'intelligence spirituelle que tu nous donnes. Et pourquoi est-ce qu'on te demande ça? C'est pour qu'on puisse marcher d'une manière qui est digne du fait que tu es notre Seigneur. et parce qu'on désire te plaire entièrement. Même si ce n'est pas toujours vrai qu'on veut te plaire entièrement, on te prie de renouveler nos cœurs pour qu'on puisse vouloir de plus en plus souvent te plaire entièrement. À ce moment-là, Seigneur, on voudrait pouvoir voir et nous réjouir du fait qu'on va avoir pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes au milieu de nous, entre nous et dans le monde autour de nous, et qu'on va progresser dans la connaissance de ta personne, qu'on va être fortifié à tout point de vue par ta puissance glorieuse. C'est incroyable, Seigneur, ce qu'on ose te demander. Pour être toujours et avec joie persévérant et patient, même quand c'est difficile dans la vie, parce que tu nous demandes des choses difficiles, ou parce que tu permets dans nos vies des maladies et des souffrances qui sont difficiles à supporter. Et Seigneur, à travers tout cela, eh bien, on veut que tu développes en nous un cœur qui nous rend capable d'exprimer notre reconnaissance à toi, notre Père, toi qui nous as rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Toi qui nous as délivrés de la puissance des ténèbres, hein, les ténèbres sont derrière nous, la lumière est devant nous. Merci Seigneur. Toi qui nous as transportés dans le règne de ton Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés et grâce à qui nous avons le pardon de nos péchés. Béni sois-tu Seigneur. Amen. Alors, quand on va connaître la volonté de Dieu, quel genre de choses est-ce qu'on va devoir faire? Là, tout le long là, qu'on a parlé de la volonté de Dieu, on l'a répété peut-être 10 ou 20 ou 30 fois, les mots « la volonté de Dieu ». Avez-vous eu peur? Qu'est-ce que tu peux me demander, Seigneur? Ou vous êtes-vous dit « c'est un mystère que je ne peux pas connaître ». Alors maintenant, on va afficher le titre de « Connaître mieux sa volonté ». On va faire ensemble un survol de la volonté de Dieu selon le reste de la lettre, en 5 points. Et déjà tout de suite, on va afficher le premier point. Avec l'aide du Saint-Esprit, Jésus veut qu'on s'enseigne, comme Épaphras le fait aux Colossiens, puis Paul le faisait aux Églises, pour bien fonder notre foi en Jésus et notre espérance de paraître saint devant Dieu. Ça, c'est une espérance céleste. Que de paraître saint devant Dieu. Donc, on va s'enseigner sur comment nos vies devraient être transformées. Hein? On va se rappeler qu'on a tout pleinement en Jésus, ce dont on a besoin pour y arriver. Que le monde ne peut rien nous donner de plus. Le monde cherche à fonder nos vies sur d'autres principes. On va se rappeler de ça en s'enseignant. Et on va se rappeler que ces principes-là que le monde veut nous donner vont toujours être remplis de pièges pour nous. Peut-être qu'on va méditer le psaume 1, et si on a de la difficulté avec tout ce que le monde veut nous remplir, peut-être qu'on va méditer le psaume 62, si vous le prenez en note, vous pourrez le lire. Une deuxième chose, donc on va afficher le point 2, avec laquelle Jésus veut nous aider, c'est qu'il veut qu'on annonce pleinement la parole de Dieu en osant même s'avertir les uns les autres. Il le répète dans la lettre aux Colossiens plus d'une fois, qu'il veut qu'on s'avertisse et qu'on s'instruise et qu'on instruise toute personne dans l'Église pour qu'elle devienne mature, adulte en Jésus. Donc, on va reconnaître, on va avoir l'humilité entre nous de reconnaître que quand on se convertit, on est un bébé dans la foi, puis on a besoin de grandir comme un enfant dans la foi, un adolescent, puis un adulte. Et qu'on a besoin les uns des autres pour nous avertir et nous instruire pour grandir. Et ça va nous donner des bonnes attitudes ensemble. Une troisième chose maintenant qu'on va afficher, que Jésus veut nous aider par le Saint-Esprit à développer en nous, c'est qu'il veut qu'on vive selon les vertus chrétiennes. Plutôt que vivre nos péchés préférés. Et par-dessus tout, il veut qu'on développe l'amour. L'amour qui va faire en sorte qu'on va se mettre au service les uns des autres, plutôt que se livrer juste à ces péchés-là. Donc, on va remplacer toutes sortes d'activités dangereuses ou mauvaises pour nous, graduellement, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, par des activités qui sont plus utiles à l'Église, à nos frères, à nos sœurs et au monde. Une quatrième chose que Dieu veut développer, qu'on va afficher, il va nous développer en nous une soumission à sa volonté dans notre vie quotidienne. Il veut qu'on lui soumette toute notre vie quotidienne, dans la famille, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que père et mère, en tant qu'enfant. Des fois, on est un père ou une mère, mais on est en même temps enfant de nos parents aussi. Et à l'école ou au travail, en tant qu'employé et ou étudiant, ou en tant qu'employeur ou chef d'équipe, ou peu importe où est-ce qu'on se trouve dans ces occupations-là de vie, à la retraite peut-être, et dans nos loisirs. Est-ce que le Seigneur a son mot à dire sur nos rôles dans notre famille, sur nos rôles au travail, à l'école, dans la vie quotidienne? Est-ce qu'il est le Seigneur de notre vie quotidienne? Est-ce que sa volonté nous importe? Et un cinquième point qu'il va vouloir qu'on développe dans sa volonté, il va vouloir qu'on s'investisse sagement dans la mission en dehors de l'Église. Soit en prière, hein, c'est sûr et certain qu'on peut aider par la prière, soit en action, et en prenant soin d'encourager aussi ceux qui sont déjà en action dans l'évangélisation et qui ont peut-être besoin d'aide, soit parce qu'ils sont persécutés ou parce qu'ils investissent beaucoup de moyens puis ils ont besoin de plus de ressources et d'aide. On parlait des fermiers chrétiens ce matin, par exemple. Alors maintenant, on va afficher le résumé des 5 points. Vous savez, la lettre aux Colossiens donne plus de détails là, sur tous ces 5 points-là. C'est vraiment un résumé du reste de la lettre pour qu'on ait comme une idée de c'est quoi la volonté de Dieu. Là. Et le monde cherche à nous détourner de ces 5 façons-là de respecter la volonté de Dieu. Regardez bien les 5, là. Vous allez voir qu'il y a des contre-messages dans votre tête que vous avez entendus à travers les années de votre vie. Où est-ce que le monde vous a dit « Non, c'est pas comme ça que ça devrait être. C'est plutôt comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est plutôt comme ça. » Alors, c'est un combat qu'on livre de mieux être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Qu'on le livre dans la prière et, ajoutons, dans la parole de Dieu, comme le point 1 et le point 3, 2 ou 3 là, nous le rappellent. La parole, la Bible, est essentielle pour connaître la volonté de Dieu. Alors, pour conclure, peut-on connaître la volonté de Dieu? Hein, la réponse maintenant est évidente. Hein? Oui, nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas juste qu'on la connaisse, il veut nous en remplir de la connaissance de sa volonté. Et Dieu habite l'Église par le Saint-Esprit parce qu'il veut nous remplir de la connaissance de sa volonté. Et si on connaît la volonté de Dieu, on s'est demandé au tout début, qu'est-ce que ça change à nos vies? Un paquet de choses, hein? Un paquet de choses. On ne laissera pas le monde nous dicter la réponse à ces réponses à ces 5 points-là. Alors, si on connaît la volonté de Dieu, ça nous permet de marcher d'une manière digne de notre Seigneur et lui plaire entièrement. Finalement, j'ai découvert un petit joyau de prière à la fin de la lettre, un 3e petit joyau de prière. Et j'aimerais vous inviter à prier en le prenant comme modèle. On va afficher le verset 12 du chapitre 4. Et juste avant de prier, bien, on est dans le contexte là où est-ce que Paul parle encore d'Épaphras qui a évangélisé les Colossiens. Et il dit « Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. » Puis tiens, je pourrais dire l'église de Granby vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, Épaphras ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. » Alors maintenant, on va prier. Seigneur, grand Dieu, notre Père, on te prie les uns pour les autres afin qu'on puisse tenir bon comme des hommes et des femmes mûrs, matures, pleinement disposés à faire toute ta volonté. Seigneur, nos cœurs ne sont pas toujours disposés à faire ta volonté, mais là, on te demande que nos cœurs soient pleinement disposés à faire toute ta volonté. Et j'en reviens pas qu'on puisse oser dire des mots comme ça en te parlant, Seigneur. C'est tellement une bénédiction de pouvoir te demander des choses si grandes et de savoir que tu veux vraiment qu'on ose te les demander. Alors, dispose-nous pleinement à faire ta volonté. On va te prier pour les 5 points qu'on a vus. On peut peut-être les afficher à nouveau. Seigneur, dispose-nous pleinement à nous enseigner les uns les autres pour bien fonder nos vies sur toi. Dispose-nous à faire ta volonté en ce qui concerne de nous annoncer pleinement la parole, en osant même nous avertir les uns les autres et en acceptant de se laisser avertir par nos frères et nos sœurs lorsque c'est nécessaire. Dispose-nous à vivre selon les vertus chrétiennes, à fuir le péché et à le remplacer par les vertus chrétiennes et l'amour surtout pour les saints. Dispose-nous à accepter les rôles que tu nous demandes dans la famille, au travail, à l'école, dans nos loisirs et partout dans notre vie quotidienne. Dispose nos cœurs à nous investir aussi sagement dans la mission en dehors de l'Église. Bénis ton Église à Cowansville, Seigneur, par un cœur bien disposé à ta volonté, pour que nous soyons toujours en train de progresser dans la connaissance de ta personne, en accomplissant ta volonté, en marchant d'une façon digne de toi, en te plaisant pleinement. Amen. Alors, merci pour peut-être votre patience un peu. Je me suis peut-être